Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, bon réveil, bon dimanche matin. On est très heureux d'être avec vous, comme tous les samedis, les dimanches de 9h à midi, les grandes gueules du sport. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Alors au sommaire aujourd'hui, évidemment, la victoire majuscule du 15 de France face à la Nouvelle-Zélande, la troisième de suite face au mythe du rugby. Est-ce encore un exploit de battre les Blacks? On se posera la question, c'est la une des GG dans quelques instants. Deux salles, deux ambiances. Les Bleus du foot sont de retour ce soir en Italie pour le dernier match de l'année. C'est un match de Ligue des Nations. Alors c'est quoi le problème dans cette équipe de France de foot? Est-ce que ce sont les joueurs ou le sélectionneur? Vous n'êtes pas d'accord, mais GG. Et ce sera le bras de fer donc à 10h. Et puis 11h, J-2 avant la dernière danse de Rafael Nadal avec la phase finale de la Coupe Davis. Le géant espagnol a laissé planer le doute quant à sa réelle participation. Doit-il absolument jouer? On se posera la question. Reportage en Espagne avec avant le grand moment de la semaine et les adieux de Rafa. Je me languis, comme on dit, de vous les présenter. Une grande gueule qui, comme Paul Pogba, il est positif, mais on n'a jamais su à quoi. Simon Dutin, salut Simon.
Salut JC, salut tout le monde.
Très heureux de te retrouver, Simon. Bah,
écoute, ravi. Je vois que tu reviens dans ton précaré, des petites marottes.
Voilà, exactement. Et c'est pas fini, hein, tu vas voir avec les autres GG.
Comme Paul Pogba, quel talent à exprimer encore.
Bien sûr, on en parlera un petit peu dans cette émission, évidemment, qui a été libérée par la Juventus Turin. C'était vendredi. Très heureux, donc je te le disais, de te retrouver. En l'absence de Christophe Sessieux, qui est toujours au Stade de France, j'imagine, a fêté cette victoire. Même si on ne fête plus la victoire au rugby, hein, maintenant il faut faire attention. Enfin, si on peut la fêter, mais avec, il y a un petit soda.
Modération.
Un petit soda.
Modération.
Une grande gueule qui, comme Paul Pogba, il a été positif. Et lui, on savait à quoi, Marc Madio. Salut Marc.
Salut.
Oui, c'est de la diffamation totale. Hein.
Ah, total.
Ça va, Marc?
Total. J'ai déjà prévenu mon avocate, et mal barré.
Ah, très bien. Alors attends, je retire.
Oui.
Une grande gueule qui, comme Paul Pogba, on l'aime bien. Marc Madio, salut Marc.
Merci, ça va.
C'est bon ?
C'est bon.
Ça sera coupé au montage, rassure-toi. Une grande gueule qui, comme Paul Pogba, on l'a fait chanter. Bon, bah elle, c'était dans Mask Singer. Hein. C'était pire, je crois. Marion Bartoli, salut Marion.
Bonjour les amis, comment allez-vous ?
Bah, on va très bien. Alors pour tous ceux qui n'ont pas suivi cette saison, enfin pas cette saison, mais la saison de Mask Singer, Marion Bartoli.
Ah oui,
Bartoli,
non, c'était pas nécessaire.
Quand on l'a fait
non,
chanter.
Non, vraiment.
Si, c'est
non,
nécessaire.
Non, vraiment, c'est pas nécessaire.
Ça donne ça.
Tu dans des paris de fou, tu vois, c'est pas compliqué. Quand je me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets.
Merci Marion pour ce moment. J'avais reconnu ta voix directement.
J'ai coupé
tu
le
vois.
Son. J'ai coupé le son.
Ça va Marion?
Ça va impeccable les amis.
Bon,
impeccable.
On a beaucoup de sujets hein, aujourd'hui. Hein. Tu l'as vu, l'équipe de France de rugby,
énormément.
L'équipe de France de foot et évidemment le tennis avec Rafael Nadal. On t'écoutera religieusement. Et puis une grande gueule qui, contrairement à Paul Pogba, n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Philippe Saint-André, salut Philippe.
Bonjour JC, salut à tous.
Toujours bien accueilli dans cette émission.
Toujours. Salut Marion.
Dis donc, tu nous fais le week-end, fais l'honneur de ta présence. Donc tu vois, je te gâte en présentation.
Puis surtout avec toi, trois jours d'affilée, parce que tu as fait le super Moscato Show avec nous aussi vendredi.
Oui, exactement.
T'es un
exactement.
Sacré client, quand même.
Demain, tu viens à la maison?
Oui. Comme là, on va jouer au golf.
Comme ça, on fait le 4 à la suite. Ça, je suis bien d'accord avec toi. D'ailleurs, on parlera de golf dans cette émission, hein, rapidement,
ah bon
les copains. Oui, il y a Antoine Rosner qui joue actuellement là.
C'est obligatoire.
Ah oui, c'est obligatoire. C'est la Race to Dubai. C'est le dernier grand tournoi de la saison. Il peut aller sur le PGA Tour. Bref, je vous raconterai tout ça. Mais c'est en ce moment que ça se passe. Et les leaders du tournoi. Et puis, c'est l'événement, vous le savez, sur RMC depuis quelques jours. 100 000 euros sont à gagner en écoutant RMC. Rendez-vous
les
à 9h55. Les sous-sous dans la popoche. On va tout vous dire. 100 000 euros à gagner.
Net d'impôt.
Uniquement sur RMC.
Net d'impôt. Oui. Ajoute-le bien. Net d'impôt.
Ça, c'est la marotte de ceux qui ont beaucoup gagné d'argent dans leur vie. Bravo. Oui, c'est net d'impôt, les copains, rassurez-vous. Allez, on débute cette émission avec cette citation d'Edmund Burke qui a dit un jour « L'habitude nous réconcilie avec tout ».
RMC,
la une des grandes gueules du sport.
Allez, on vous plonge sur RMC dans le 64e France-Nouvelle-Zélande de l'histoire depuis 1906 que ça dure. Attention, on a 10 mètres de la ligne, ça va piquer son bagage, ça va peut-être être laissé.
Essai
néo-zélandais. Alors que là, il y a une mêlée. Oh, la mêlée poussée All Black. Encore la poussée All Black. Tiens, là, il s'est fait poser le ballon. Regardez, c'est l'essai. L'essai de Cameron Agar. Tu prends sur l'extérieur. Ramos, ton bureau. Essai de Robin Bureau. Pour sa première sélection. La réaction du 15 de France. 33e minute. Mais là, ça passe avec Bailly qui relève le ballon. Mais c'est récupéré par Thomas Ramos. Le coup de pied à Zan. Pierre Biarré à la course. Avec ses Louis. Allez, lui, l'essai. C'est encore un troisième Biel Biarré.
Incroyable.
magnifique sur le rasant de Ramos, sur cette perte de balle néo-zélandaise. Que des points au pied pour les néo-zélandais. Ce ballon qui va passer entre les perches pour Mackenzie. Et ça fait 30 à 29, un point d'écart. Tripoloutou dans le dos pour Will Jordan. Will Jordan qui va sur Colombe. Il est coffré Colombe. Si on le tient, il est coffré. Allez, faut plus le lâcher. Il faut plus le lâcher. Ça peut être fini. C'est terminé. La France s'emporte 30 à 29. Bel exploit des Français. Ouais. 15e victoire dans l'histoire des Bleus face aux All Blacks.
Allez, frissons, hein, toujours sur RMC avec Wilfried Templier, avec Denis Charvet, avec Christophe Cessieux, en direct du Stade de France hier soir pour la troisième fois d'affilée. Le 15 de France s'est donc offert le scalp de la Nouvelle-Zélande, une victoire de prestige après un match fou, vous l'avez entendu, ultra serré, d'une intensité rare. Longtemps mené au score, les Bleus ont renversé les Blacks dans un Stade de France incandescent. Et cela devient vraiment une habitude de laisser les Néo-Zélandais à terre. Alors la musique qui fout les jetons, et cette question, battre les Blacks, est-ce toujours un exploit ? Oui ou non ? Simon Dutin ?
Oui.
Philippe Saint-André ?
Non.
Mario Bartoli ?
Oui.
Marc Madio ?
Oui.
Vous l'avez vu, hein ? C'est le spécialiste rugby qui dit non, les copains, il va falloir s'accrocher avant de débattre. On va retrouver notre commentateur, Wilfried Templier. Salut Wilfried.
Salut tout le monde.
Salut Wilfried.
Alors, salut Wilfried.
Les Bleus ont vécu ce match de dingue et cet après-match de dingue ?
Bah, ça a été une véritable délivrance hein, pour ces Bleus qui ont perdu, souvenez-vous, leur pilier droit Tatafu dès le début de match, qui ont été dans les cordes plusieurs fois en première période. Le 17-10 seulement entre guillemets hein, en faveur des Blacks à la mi-temps était presque miraculeux en fait hein, mais l'équipe a su réagir à ce moment-là dans le sillage de Dupont selon le sélectionneur Fabien Galthié.
Et ce qui est bien aussi, c'est ce qui s'est passé à la mi-temps, je crois, et la manière dont on a réussi à régler les problèmes de conquête, déjà, et rectifier le tir sur la manière dont on a joué, et on s'est payé très vite, très très vite. Donc ça, c'est très positif. Et puis, je parle même pas de la joie et du plaisir partagé, bien sûr.
Oui, comme celle au coup de sifflet final après une lutte acharnée pour empêcher les All Blacks, toujours menace à un point au score de relancer leur 22 mètres. Et après une énième lutte avec eux, une énième étreinte défensive, ce coup de sifflet d'arbitre et donc l'émotion confirmée par le capitaine Antoine Dupont.
Oui, évidemment qu'un scénario comme celui-là, ça donne beaucoup de joie à la fin. On parle beaucoup de l'enthousiasme qu'on peut avoir, les supporters, quand il y a des grandes actions, des essais magnifiques. Mais ce sentiment qu'on a sur le terrain quand il faut tenir notre ligne pour avoir une victoire et qu'après c'est terminé, de sentir qu'on peut compter les uns sur les autres, c'est hyper grisant comme sentiment. Donc il y a beaucoup de joie à la fin. Et puis gagner les All Blacks, c'est toujours spécial. Donc c'était un sentiment très fort qu'on a tous partagé au coup de sifflet final.
Alors que plus de 40 minutes plus tôt, pas grand monde peut-être ne misait sur une victoire des Bleus, tant l'impression laissée par les Néo-Zélandais était forte dans tous les secteurs, ils ont secoué les Français, mais cette équipe ne lâche pas, c'est ce que veut voir le plus expérimenté d'entre eux, pardon, Gaël Ficou.
Bah, la résilience. Je pense qu'on fait preuve de résilience depuis maintenant 5 ans, avec un groupe qui évolue, avec des nouveaux joueurs qui arrivent, qui s'intègrent vachement bien au groupe. Je pense que la mentalité, elle change pas. On a ça en nous et on se bat pour ça. Donc on savait que ça allait être très dur hein, au niveau de la Nouvelle-Zélande. Ça fait 4 mois ou 5 mois qu'ils sont ensemble, qu'ils se lâchent pas, qu'ils s'entraînent tous les jours. Nous, ça fait 3 semaines. Donc on savait que ça allait être très très dur et que la différence, elle pouvait se ressentir des fois sur les automatismes. Ça s'est vu, hein, 2-3 fois, ils nous ont breakés. On est revenu, on n'a pas lâché. On sait que contre ces équipes-là, si tu lâches pas, petit à petit, ils doutent, s'ils marquent pas de suite. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc voilà, je faut saluer la mentalité de cette équipe.
Une mentalité dont ils auront encore besoin vendredi prochain, et oui, déjà vendredi face à l'Argentine, pour boucler parfaitement cette tournée d'automne.
Ah, pas facile de dormir quelques heures, hein, mon cher Wilfried, le plus expérimenté des commentateurs. Wilfried Templier, tu restes avec nous pour ce débat, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio, battre les Blacks, est-ce toujours un exploit? Alors j'ai un non de la part de Philippe Saint-André, ancien sélectionneur du 15 de France, donc on va commencer par un oui. Tiens, je te sentais très enjoué, Marion, pourquoi oui?
Parce que pour moi, ça a été une immense victoire collective. Et comme l'a dit Gaël Ficou, effectivement, déjà en première période, ils sont extrêmement secoués. Les impacts physiques étaient énormes. Ça a été quasiment miraculeux qu'ils prennent pas plus l'eau que ce qu'ils l'ont pris. Effectivement, tourner à 17-10, 10-17 contre eux. On se disait que c'est en deuxième mi-temps, ils commençaient assez fort, ils pouvaient arriver à renverser la situation. Et là, ces deux essais inscrits assez rapidement en début de deuxième mi-temps ont vraiment complètement relancé le match. Moi, j'ai trouvé à nouveau Louis Bielbarré absolument exceptionnel, intraitable. Beaucoup de joueurs ont été phénoménaux. Meno à leur poste respectif. Il y a quand même plus de 200 plaquages sur les Blacks, avec qu'ils ont une possession seulement de 40%. Donc j'ai trouvé cette victoire collective absolument superbe. Et puis comme une espèce de match référence, un match de lancement pour 2027. Et puis bah, trois fois les Blacks consécutivement, ce n'est jamais anodin pour moi.
Ok, donc ce n'est jamais anodin, c'est aussi la série, hein, la série de trois victoires de suite qui pour toi peut être considérée comme un exploit.
Mais pour commencer, ouais.
Ok, très bien, tu es là-dessus. Tu peux répondre déjà, Philippe.
Juste quand c'est une série, ce n'est plus un exploit. Et cette génération, ils ont pris un vrai ascendant sur les All Blacks, avec des tauliers, on en a parlé, Aldrit, Ramos, Antoine Dupont, Movaca, Marchand, Gaël Ficou, qui sont vraiment ces joueurs d'expérience, et puis avec des nouveaux, des jeunes qui amènent une vraie plus-value. Vous en avez parlé, Biel Barré qui va à 10 000 à l'heure, il pourrait faire de l'athlétisme, il pourrait faire du 100 mètres. Même le coach néo-zélandais a été impressionné parce que sur l'essai, il y avait l'ailier néo-zélandais de l'autre côté qui était.
On avait l'impression qu'il avait une charrette.
Il lui a mis 10 mètres sur 50 mètres. Roumat, qui a été impressionnant pendant 80 minutes dans les duels aériens.
En fait, on n'a plus peur, quoi.
Voilà, Boudéan, en plus, tu avais dit, fallait mettre une petite pièce sur lui, il allait marquer un essai. Et donc.
Et premier essai de Burros aussi.
Et Burros pour sa première sélection. Mais surtout, c'est le scénario du match. Ils sont menés archi bouffés en première mi-temps. Tu es bouffé dans la conquête, tu es bouffé en touche, tu es bouffé en mêlée. Par contre, tu as un pragmatisme incroyable. Tu viens une fois dans les zones de marque, tu marques un essai et tu restes collé à 17-10. Et après, on fait un début de deuxième mi-temps exceptionnel. On marque 14 points. Donc, j'ai envie de dire, dans le rugby français, bien sûr que c'est un exploit quand on gagne les Néo-Zélandais. Mais pour cette génération, ça devient une habitude.
Ok, donc ça n'est plus un exploit pour toi. Attention, parce qu'il a envie de te rentrer dedans. C'est Simon Dutin, il s'appelle.
Oui. Non, mais alors moi, j'ai dit, j'ai jamais vu une équipe de France favorite face aux Néo-Zélandais. Ça n'a pas débuté cette semaine. Tu rappelles, Philippe, la série. Sur cette série, c'est trois fois à domicile, dont deux fois en tournée. On rappelle que les Néo-Zélandais, pour eux, c'est la fin de saison. Ils tirent un peu la langue. C'était leur troisième test match. Ils sont allés battre les Anglais, ils sont allés battre les Irlandais. Et hier, je suis désolé, on bat...
C'était leur quatrième test. Ils avaient gagné au Japon aussi. Alors, et vont finir en Italie la semaine prochaine.
Tu apportes de l'eau à mon moulin, même s'ils tirent un petit peu moins la langue qu'en 2021. On rappelle que les saisons sont complètement inversées dans les deux hémisphères. Moi, j'ai trouvé que c'était une magnifique victoire face à une grosse équipe All Black et qu'à ce titre, c'est un miracle. Philippe, tu rappelles que un des essais français, il est marqué parce qu'on a un ailier supersonique. Bon, ça peut rappeler un petit peu l'ailier de Philippe, de Bernat Salle, oui, c'est ça, Philippe Bernat Salle. Tu sais, Jonah Lomu disait...
Ou Dominici.
Oui, Jonah Lomu, il disait, il court comme le vent, tu vois, parce qu'ils n'avaient pas un mec aussi rapide chez eux. Un miracle, oui. Trois fois, ça fait 30 ans que ça n'était pas arrivé de les battre trois fois de suite. Et puis, moi, j'ai l'impression que c'est une victoire un petit peu... Bah, miraculeuse, le terme est un peu fort, mais comme à l'époque où, justement, on se pointait sur le terrain en sachant qu'on avait aucune chance de les battre et qu'on les battait, voilà, sur une façon de bien française, de ne jamais renoncer. Les Français ont été courageux. Philippe a rappelé qu'ils ont pris la marée en première période. C'est un petit miracle de tourner avec un aussi faible écart à la pause. Et puis, voilà, on nous dit qu'on va abandonner le jeu de dépossession. Le jour où on va gagner contre les Blacks, en les concassant pendant tout le match, sans leur permettre de sortir la tête de l'eau, là, ok.
Alors, c'est trop une victoire à la française.
Simon, tu peux pas dire ça. On les a concassés en Coupe du Monde sur le premier match. Là, les cotes, les Français étaient favoris. Les Français étaient favoris avant le match. Donc, à un moment donné, moi, j'étais de la génération 94-95, on les a gagnés trois fois d'affilée, dont deux fois en Nouvelle-Zélande. Ouais. Quand tu les gagnes trois fois d'affilée, ce n'est plus un miracle. Et sincèrement, nous, on est partis en Coupe du Monde en 95. Bon, on sait ce qui s'est passé, on a fini troisième. Mais on n'avait aucun complexe. Parce qu'on avait l'habitude aussi de les gagner. Et cette génération de joueurs, ils ont pris l'habitude de gagner l'All-Black.
Allons les battre, Philippe, en Nouvelle-Zélande. Allons les battre dans l'hémisphère sud. Allons les battre, à certaines altitudes en Coupe du Monde. Parce qu'encore une fois, je veux bien dans les trois. Il y a ce match d'ouverture en 2023. On est chez nous. Il y a l'adrénaline, il y a ce public, il y a l'élan d'un pays. Moi, je veux bien. Je salue.
Les All Blacks n'avaient jamais perdu un match d'ouverture en Coupe du Monde et ils ont perdu contre la France.
Un match de poule.
Un match de poule et un match d'ouverture en plus.
Je pense que match, on méritait pas. Enfin, la défaite des Néo-Zélandais est très dure. Ils ont, je trouve, fait une grosse partie. Ils ont fait quelques erreurs techniques qui ont permis, avec l'efficacité française, de nous donner la victoire.
Ok, donc peut-être que la meilleure équipe n'a pas gagné. C'est ce que veut nous dire Simon. Marc Madiot.
Pour moi, c'est quand même un exploit. Hein. La preuve, le débat qu'on est en train de faire en ce moment démontre que ça n'est pas la même chose quand on bat les All Blacks ou quand on bat même l'Angleterre. Donc il y a quand même toute une histoire derrière. Il y a un mythe. Il y a un mythe. Il suffit de regarder l'avant-match, le haka, l'ambiance, le cérémonial qu'il y a autour de cette équipe. Donc quelles que soient les périodes, quelles que soient les compositions d'équipe, quelle que soit la compétition, battre les Blacks, c'est mythique.
Et tu t'es régalé hier?
Ah oui, moi je suis pas un grand spécialiste de rugby, mais j'ai regardé avec attention et à la mi-temps j'étais un peu anxieux et j'ai trouvé qu'il y avait eu une superbe réaction en début de deuxième mi-temps et en fait hier soir c'était un beau moment de sport, un moment qui nous réconcilie avec ce que devrait toujours être le sport. On a vécu des heures et des jours précédents qui n'étaient pas sur le même tempo et il y a un match de foot ce soir, je pense et j'espère, mais je suis presque certain que l'équipe de France de foot va forcément s'inspirer de ce qui s'est passé hier soir et je suis persuadé également que Deschamps va s'en servir parce qu'on a vécu un moment, il y avait tout hier soir, il y avait tout pour que ce soit historique. Alors ça n'était pas la Coupe du Monde. Mais c'était un moment de grâce.
Et ça nous a rappelé la Coupe du Monde. Tu veux aller sur ce terrain-là, sur le rugby versus le foot? Oui, dans quelques instants, Marion, parce que forcément, il faut payer vos salaires à tous. Donc, on va se quitter quelques instants et on revient pour reparler de ce match. Déjà, il y a Simon qui a initié peut-être la meilleure équipe, n'a peut-être pas gagné hier. Et puis, il y a cette confrontation, si j'ai envie de dire, en tout cas ce parallèle entre l'équipe de France de foot et l'équipe de France de rugby, 7,3 millions hier devant France-Nouvelle-Zélande. A tout de suite sur RMC, on continue d'en parler.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h32 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Philippe Saint-André, Marion Bartoli, Marc Madiot, Simon Dutin. Dans 10 minutes, on s'en fout pas. John Textor, le propriétaire de l'OL, qui contre-attaque après la décision de la DNCG. Vous me direz si ça vous intéresse ou non. En tout cas, il était hier en conférence de presse. Mais restons évidemment un instant sur ce France-Nouvelle-Zélande, battre les Blacks. Est-ce toujours un exploit? Xavier nous appelle au 32-16. Salut Xavier.
Salut JC, salut les GG.
Bon, tu veux réagir à ce débat, voire même à la question posée?
Bien sûr, parce que toi et Philou, vous êtes jojo ce matin, les gars. Je sais pas, vous avez passé une mauvaise fin de soirée, vous êtes pas réglé, je comprends pas. On a une chance incroyable de basculer à moins 7 seulement. Ouais. À la mi-temps, tellement c'est concassé en première. Le nouveau sélectionneur Black, il a complètement changé la philosophie de cette équipe. Et je trouve qu'il prône un jeu et il sélectionne des mecs qui ont des physiques très proches des Sudaf. Moi, j'ai été effaré devant la différence des gabarits qu'on avait vis-à-vis de nos joueurs. On se fait bouffer littéralement en conquête. On est en très grande difficulté. Cette pause, elle nous fait un bien fou. On revient au score très vite. Et enfin, les gars, j'espère, c'est pas parce que je suis toulousain, mais là, j'espère qu'on va arrêter le débat autour de Jalibert. Ramos, il a montré qu'il n'est pas qu'un bon gestionnaire et un défenseur de qualité. C'est lui qui fait la diff avec cette inspiration de coup de pied sur turnover qui permet à Louis Viel d'aller scorer. Et
il a marqué tous ses pénalités au pied.
Voilà, oui, c'est ça qui nous fait gagner à la fin. Donc, ça reste un exploit puisqu'on ne les bat que d'un point après avoir vécu des moments très compliqués. Jusqu'à la dernière minute, on a la RAF qu'ils nous passent devant, qui nous battent. Et dans l'ère moderne, les cocos, on les a jamais battus trois fois d'affilée dans l'ère moderne du rugby. Donc oui, c'est un exploit et ça ne le sera plus lorsque nous deviendront les leaders mondiaux.
Philippe Saint-André
n'est pas
mondial.
L'ère moderne, 95, dis donc.
C'était pas le même rugby. Là-dessus, je suis d'accord avec lui, mais tu peux pas dire, quand tu as une génération de joueurs qui gagne la Nouvelle-Zélande trois fois. Alors, la seule chose où je peux être d'accord, c'est que le match en ouverture contre les All Blacks en Coupe du Monde, on les avait vraiment dominés. Là, hier, ça a été très compliqué. Je suis tout à fait d'accord, les All Blacks sont en train de vraiment de changer de jeu, de changer de profil de joueur. Ils ont des mecs très physiques, ils conservent énormément le ballon. Hier, on attendait beaucoup, beaucoup de jeux au pied sur notre arrière et nos ailiers. Il y en a eu pratiquement pas. Ils ont complètement changé de stratégie en jouant la France, alors qu'ils avaient une stratégie différente en Angleterre et en Irlande, mais
on est un peu rentré dans leur tête, donc.
Oui, mais par contre, c'est ce que je veux te dire, c'est qu'on a quand même des mecs. Antoine Dupont, il les gagne en moins de 20 ans. On a cette génération, c'est des mecs qui ont l'habitude de gagner. Ils ont plus peur de jouer l'Afrique du Sud, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. C'est des mecs qui ont été champions du monde des moins de 20 ans, qui ont fait un grand chelem et qui actuellement, ils vont peut-être passer troisième nation mondiale. C'est pas le fait du hasard quand tu gagnes trois fois d'affilée les All Blacks, surtout dans les temps modernes.
Oui, mais Philippe, on est tous d'accord pour dire, on en a beaucoup parlé cette semaine, que certes l'écart s'est resserré, et notamment grâce à cette génération qui a appris à gagner et qui est montée en pro avec cette confiance justement acquise dans les catégories de jeunes, et puis des joueurs hors du commun, on pense à Dupont, Aldrit et d'autres. Mais justement, vous le soulignez, on a retrouvé juste ces Blacks qui s'étaient un petit peu perdus, à qui on manquait un petit peu de respect parce que ils avaient de moins bons résultats, ils faisaient moins peur certes à leurs adversaires, mais hier on a retrouvé justement des mecs qui ont confiance dans ce qui a longtemps fait leur force, des arrières qui jouent le feu, qui ont confiance en leur capacité. Ils ont échappé beaucoup de ballons, mais ils sont venus nous attaquer dans l'axe du terrain, ils se sentaient très forts. On a des avants chez eux qui peuvent jouer comme des arrières, je veux dire, ils passent moins de temps que nous au sol dans les regroupements, ça va plus vite, ça tape plus fort. Enfin, excusez-moi, moi, c'est une énorme équipe All Black. Et je répète, ils sont allés battre les Irlandais.
Et s'ils avaient été aussi forts, ils nous auraient mis 40 points.
Oui, mais Philippe, regarde.
Non, mais on résiste beaucoup à la
sur la récupération de Ramos, les Blacks peuvent aller à l'essai. Ils tombent le ballon. Ramos a une inspiration géniale. Et encore une fois, on a Miel Barré qui fume tout le monde.
Mais pourquoi? Parce qu'on est une équipe, on défend bien, on est discipliné, on prend pas trop de pénalités. Et par contre, on a des mecs sur les ailes qui sont capables, sur des ballons de turnover, de faire de la grande différence. Alors après, où on se trompe complètement, c'est que les All Blacks ne sont plus la meilleure équipe du monde. La meilleure équipe du monde actuellement est l'Afrique du Sud. Voilà.
Ok, vous voulez réagir? J'ai entendu Marion, j'ai entendu Marc. Marc et après Marion.
Oui, alors moi je voudrais quand même être un petit peu modérateur dans tout ce qu'on vient de dire. Je trouve quand même que les Blacks, en deuxième mi-temps, ont baissé physiquement. Et s'ils étaient restés sur le même tempo qu'en première mi-temps, on n'aurait peut-être pas eu le même résultat de match. Ceci étant dit, ça vient aussi du fait que l'équipe de France a su réagir en deuxième mi-temps et a su se remobiliser et utiliser toutes ses forces. Mais il faut quand même garder à l'esprit que les Néo-Z, s'ils étaient restés un peu plus longtemps sur le même tempo, ça aurait été quand même beaucoup plus compliqué. C'est ce qui fait d'ailleurs que c'est un exploit.
Il y a une ou deux actions en marque, effectivement, une ou deux actions où ils sont pas loin de marquer en deuxième mi-temps, hein, et là le match il est plus le même.
Mais par contre notre banc a été de grande qualité. Le banc, les rentrants,
on pouvait penser le contraire.
Les rentrants ont été très bons. Par contre, dans la dimension physique derrière, c'est vrai qu'on a énormément souffert, parce que les Néo-Zélandais ont une sacrée génération, ont trouvé des nouveaux joueurs, et il a fallu, on va dire, une défense héroïque de toute l'équipe de France. Par contre, je voulais quand même remercier et féliciter, c'est le public français. Parce qu'ils ont été exceptionnels sur le haka. J'étais à Twickenham pour Angleterre, Nouvelle-Zélande. Les Anglais n'avaient pas respecté le haka, alors que le public français, les supporters qui étaient au Stade de France hier, ont été exceptionnels. Et pour une fois, il faut les féliciter.
C'était magnifique. C'était fantastique.
Bah justement, le public français, je le disais il y a quelques instants, nous venons d'avoir les audiences d'hier soir, 7,3 millions de supporters, de téléspectateurs devant leur écran pour assister à cette rencontre.
Alors,
je vais pas vous faire un versus France-Israël jeudi soir, parce que forcément la fiche n'est pas du tout la même.
On va comparer
avec France-Italie, là on pourra peut-être comparer. Je sais que Marion, tu voulais faire le parallèle entre le foot et le rugby.
Exactement, mais surtout ce qui m'a vraiment marqué hier, je suis complètement d'accord avec Philippe et Marc, c'est qu'il y avait un silence mais de cathédrale pendant le haka. Il y a un respect total et il y a eu un tout petit peu quelques sifflets sur la fin, et d'ailleurs les gens disaient chut chut pour justement respecter ce moment. J'ai trouvé le public absolument incroyable, mais il est vrai qu'il y a un amour immense qui se crée entre l'équipe française de rugby et le public, et un désamour qui commence à arriver à grandir, qui est très important entre l'équipe de France de football et son public. Donc j'espère vraiment que les joueurs vont réagir. Mais là où je voulais en revenir sur effectivement le fait que c'était un exploit, c'est que vous l'avez dit, j'ai trouvé que moi en fait ce match il le gagne en première mi-temps hier. Pourquoi il le gagne en première mi-temps? Parce que s'ils prennent complètement l'eau, parce que les DOZ ont mis un tel impact physique que la France n'arrive pas à résister, qu'ils commencent à prendre 20 points dans la figure, le match il est plié. Et en fait, ils le gagnent en première parce qu'ils arrivent à résister, à tourner qu'à moins 7, ils prennent l'avantage dès le début de la deuxième. Et puis quand même, pour moi, la raison pour laquelle ça reste un exploit, et je pense que Philippe, tu seras d'accord avec moi là-dessus, quand tu perds la finale du Mondial 2011 chez eux à Auckland pour un point, on se souvient tous de cette image de Thierry du Sautoir qui vient prendre sa médaille d'argent sur le podium, que 4 ans plus tard, tu te fais humilier en prenant 9 essais. Alors même si c'est pas la même génération, ça reste des matchs qui marquent quand même une équipe, et surtout quand tu les affrontes en face. Donc j'ai trouvé effectivement l'exploit de l'équipe de France hier, au vu du scénario, de tout ce qui s'est passé, absolument incroyable, et le public monumental.
Il y a le Direct Studio, j'ai Philippe, qui abonde dans le sens de notre ami Simon Dutin et nous dit « Oh, ne vous enflammez pas sur un match où nous gagnons par miracle. Vous le jouez 10 fois, vous le perdez 9 fois. Nous avons de gros points faibles. »
Moi, je pense que Philippe a raison. Encore une fois, c'est une victoire très française qui me rappelle celle de la fin des années 90, celle des victoires en Coupe du Monde, où ça tourne parce qu'il y a ce côté opiniâtre très français qui ne veut pas justement abandonner. Et là où ça pourrait un petit peu tempérer le côté victoire miraculeuse, il y a quelque chose qui se dégage depuis le début du mandat de Fabien Galthié, c'est cette capacité à, au lieu de sombrer en seconde période lorsque tu sens que ça appuie en face, cette capacité à reprendre l'ascendant physiquement grâce à ce que Galthié appelle les finishers, tu sais, les mecs qui rentrent en seconde période et qui apportent cet élan. Le fait justement de reprendre le dessus physiquement en seconde période, alors que tu te dis bon, si ça flanche un peu, ça va être un carnage, ça c'est devenu une marque de fabrique, je trouve, de notre 15 de France. Ça permet d'avoir des certitudes lorsque, évidemment, la rencontre ne débute pas bien. Mais je maintiens que moi, j'ai été très, très impressionné par voilà, l'intensité des All Blacks, leurs intentions, et retrouver des... Enfin, tu vois, Savea, le troisième ligne, c'est un mec...
Pas de problème, on va changer ton passeport.
Ce qu'on veut, mais on n'a pas ce genre de...
Savea, il a un impact énorme sur le premier essai. Mais je ne peux pas laisser dire Philippe, notre auditeur, qu'il y a des défauts qui sont énormes dans cette équipe. Ça a des défauts énormes, et tu prends mais une rousse carabinée hier soir. Tu peux pas dire ça. Qu'il y ait peut-être un tout petit peu de chance que si tu rejoues le match, peut-être ça fait 5-5, tu le perds 5 fois, que tu le gagnes 5 fois. Allez, je veux bien l'entendre. Mais tu peux pas dire que tu as des défauts colossaux et que tu es capable de battre les DOZ au vu de ce qu'ils ont mis comme impact physique et comme niveau de jeu sur hier soir. Ça, c'est pas possible. Je ne peux pas laisser dire ça.
Eh ben, tu l'as pas laissé dire ça, justement. On embrasse.
Je vais pas dire ça.
Qui nous a joint via le Direct Studio. Évidemment, vous pouvez réagir au 32-16. On en reparlera à 10h30 de cette équipe de France. Est-ce que cette victoire de prestige solde la Coupe du Monde, le Mondial raté, cette défaite en quart de finale? Oui ou non, vous avez un avis très tranché sur cette question. Ce sera à 10h30.
On parle bien de la 15e victoire du 15 de France en 64 confrontations face aux All Blacks.
C'est ça.
Merci beaucoup, mais là c'était l'heure d'arrêter le débat. Même si tu avais très envie de relancer, je sens si bon. Merci Wilfried Templier.
T'es habillé en noir aujourd'hui.
On va le naturaliser tranquillement. Merci beaucoup Xavier d'avoir composé le 32-16. Merci Wilfried Templier pour tous les commentaires et puis d'avoir été avec nous ce matin pour nous résumer les principales réactions de notre 15 de France et de nos bleus. 9h42, on se retrouve dans quelques instants. Le zapping des GG, on s'en fout pas. John Textor, contre-attaque après la décision de la DNCG. Ça vous intéresse, les copains? À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Et les 100 000 euros, c'est dans quelques minutes, donc restez bien à l'écoute d'RMC. Toujours avec Marion Bartoli, Simon Dutin, Philippe Saint-André, Marc Madio dans cette émission à partir de 10h. France-Italie, c'est l'équipe de France de foot, évidemment, pour le dernier match de l'année ce soir. C'est quoi le problème? Les joueurs ou le sélectionneur? Le bras de fer des GG, vous n'êtes pas d'accord. Mes petites GG. 10h45, ce sera les GG contre-attaque. Les grandes gueules, vous le savez, vous prenez les commandes de cette émission en nous proposant un débat soumis au vote sur le compte X des grandes gueules du sport. Et vous, chers auditeurs, vous pouvez voter évidemment pour votre débat préféré. Allez, quelques secondes pour nous vendre votre débat. À vous d'être bon, hein. On vous attend évidemment. Marc, tu proposes quoi?
Moi, je propose un débat sur qui me semble être, c'est très personnel à travers les images que j'ai pu en observer, l'amitié Ocon-Gasly est-elle en train de naître?
L'amitié Ocon-Gasly, ouais. Il se déteste.
Mais j'ai eu le début d'une impression.
Ah, le podium au Brésil.
On solde les comptes.
Ok, très bien.
On solde les comptes et peut-être qu'on va devenir copains.
Ah dès qu'ils seront plus dans la même écurie, ça c'est sûr qu'ils vont être très copains. Mais c'est le débat proposé par Marc Madio, 10h45. Si ça vous intéresse, Marion, tu proposes quoi?
Alors moi, je vais vous proposer le grand retour de Lindsay Vonn, une immense championne que j'ai eu la chance de rencontrer à Roland-Garros parce qu'elle adore le tennis. Elle vient assez régulièrement sur les tournois du Grand Chelem. Immense fan de Roger Federer. Et Lindsay Vonn qui reprend les skis après 5 ans d'absence. Je trouve que c'est quelque chose d'absolument historique. J'ai énormément admiré. Pour ceux qui veulent aller voir un clip qui vous donnera la chair de poule, vous tapez Lindsay Vonn NBC sur YouTube et vous verrez Girls on Fire sur la musique d'Alicia Keys où on la voit revenir de ses blessures et regagner la médaille d'or. Absolument fabuleux.
Elle a 40 ans, Lindsay Vonn.
Pour ou contre Lindsay Vonn? Pour ou contre les légendes dans le sport?
Le retour de Lindsay Vonn.
Ok. Vous en pensez quoi de ce retour? En tout cas, c'est la proposition de Marion. Philippe, tu proposes quoi?
Oui.
Oh non, pas du rugby, hein.
Ben, bien sûr que si. Est-ce que c'est la crise pour nos meilleurs amis ou ennemis? Les Anglais, le rugby anglais, 5e défaite, mais surtout là, ils viennent perdre 3 fois d'affilée à Twickenham lors des tests du mois de novembre.
Ah, si c'est pour dire du mal des Anglais, on est partant pour ce débat, évidemment. Merci beaucoup, Philippe. Simon Dutin.
Moi, c'est après la défaite un petit peu surprise de Alexander Zverev hier en demi-finale du Masters. Il a expliqué que bon, Taylor Fritz, c'est un mec qui est rentré dans sa tête. Il a du mal à le battre et il dit voilà, en fait, c'est les défaites qui te marquent et il sous-entend que les défaites te font progresser. Moi, j'en ai un peu ras-le-bol de ce concept, tu sais, de ce poncif de notre business, la fameuse défaite encourageante. Donc j'ai envie de demander aux grandes gueules si elles pensent vraiment que une défaite cruelle peut te faire vraiment plus avancer qu'une victoire un petit peu étriquée, voire parfois méritée.
Ok, débat philosophique, vous aurez 2 heures et une copie double, les GG. Allez, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Des informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est donc John Textor qui contre-attaque après la décision de la DNCG, le gendarme financier. On s'en fout pas, Simon Dutin.
Je laisse la justice faire son travail, je m'en fous.
Non, tu t'en fous, Marc Madio.
M'en fous pas du tout.
Ah, merci Marc. Mario Bartoli.
Non, je me fous pas de mon ami Johnny. Non, faut qu'on en parle.
Ok. Philippe.
On s'en fout pas.
Au lendemain de la décision de la DNCG de rétrograder à titre conservatoire l'Olympique Lyonnais la saison prochaine, le propriétaire John Textor a donné une conférence de presse pour régler ses comptes avec le gendarme financier, hein, pas ses propres comptes évidemment, même s'il a tenté d'expliquer son plan pour trouver des centaines de millions d'euros. Je rappelle que la dette de John Textor s'élève aujourd'hui à 463 millions d'euros. Je vous propose de l'écouter en conférence de presse hier. Could lead
to a relegation. Cela pourrait conduire à une relégation. Il est important que tout le monde en soit informé dès maintenant. Mais l'année dernière, j'étais le seul idiot à dire que nous n'allions pas être relégués. Je le redis, aujourd'hui, nous n'allons pas être relégués. Personne ne permettra que cela arrive au club. Si tout échoue, nos actionnaires très riches ne laisseront pas ce club échouer financièrement. Nous avons pris du temps avec la DNCG et je vous avais promis une présentation dans leur style. Vous savez, ils ont un travail difficile, mais nous avons les bons outils financiers pour résoudre nos problèmes, mieux que beaucoup de clubs, et nous n'avons besoin de l'aide de personne.
Voilà, c'est dit. Sachez que l'un de ses plans, hein, lui qui est actionnaire majoritaire de Crystal Palace à hauteur de 45%, eh bien, c'est de vendre ses parts. Et dans ces cas-là, il y a 4 offres, hein, qui sont sur la table pour un prix d'achat autour de 200 millions d'euros. Donc voilà, ça pourrait éponger la dette. Marc,
moi, ce qui au-delà du cas Textor et de Lyon, ce qui m'intéresse, c'est de savoir jusqu'où ça va aller. Parce qu'aujourd'hui, c'est Lyon, mais compte tenu du bilan financier de la Ligue et des droits télé qui s'y rattachent, j'ai peur et je crains qu'on ait d'autres clubs qui rentrent dans cette même situation et on est peut-être au bord du gouffre pour bon nombre de clubs.
Et ça m'étonne que Simon Dutin se moque de cette information. Lui, le Bordelais, mais tu n'as pas le droit de parler, donc malheureusement, tu ne peux pas t'exprimer, même si tu étais prêt à bondir, évidemment.
Il faut quand même se souvenir, Bordeaux, grande place du football français et européen, dans la difficulté, voire aux oubliettes. Lyon, au bord du précipice, qui demain?
Ouais. Marion?
Exactement pareil. Moi, je trouve que la situation financière du foot français est extrêmement alarmante et je trouve justement l'attitude de John Textor très à l'américaine, hein. Donc dans le positivisme extrêmement poussé en disant non mais tout va très bien aller, vous inquiétez pas, mais à force de faire l'autruche et de mettre la tête dans le sable et en disant que non tout se passe bien, parfois tu peux arriver à avoir des surprises. Et moi, ce qui m'interroge fortement, c'est quand justement il est sorti de sa réunion avec la DNCG, il avait déclaré tout s'est extrêmement bien passé. Quand tu prends ensuite le verdict dans la figure, interdiction de recrutement recrutement pour le prochain mercato d'hiver, rétrogradation administrative. Quand si un meeting s'est bien passé, que tu prends ça dans la tête, alors qu'est-ce que c'est si ça s'est bien passé? Donc le problème, c'est qu'à force de pas voir la réalité en face, tu peux te retrouver, même si tu as des moyens financiers qui sont importants, et ça je n'en doute pas pour le Eagle Group, qui est le groupe de John Textor, puisqu'ils ont d'autres clubs, ils ont Botafogo, ils ont Molenbeek, effectivement il est actionnaire chez Crystal Palace, même si sur le montage financier, justement, les DNCG a parlé d'un montant qui devrait être capé pour le renflouement des caisses par rapport à la vente de ses actifs sur Crystal Palace. Mais bon, bref, je pense que sur le montage financier, ils vont arriver à s'en sortir. Mais c'est la crise du foot français qui, moi, m'interroge profondément et qui m'alarme profondément également.
Ok, on en reparlera évidemment dans cette émission. Toutes les dernières informations sur rmcsport.fr. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Clément Noël qui va disputer son premier slalom de la saison. C'est dans quelques minutes. On s'en fout pas, Simon Dutin.
On s'en fout pas, évidemment.
Marc,
m'en fous.
Très bien. Mario Bartoli.
Ah non, je m'en fous pas, j'adore le ski.
Ok, Philippe Saint-André.
Moi aussi, j'adore le ski.
Mais oui, bah justement, on va prendre la direction de Lévis, c'est en Laponie finlandaise, retrouver Léna Marjac. Bonjour Léna.
Salut JC, salut à tous. Salut,
tu vas commenter cette course pour nous, c'est la première manche du premier slalom de la saison. Et on attend beaucoup de Clément Noël, qui n'a pas brillé la saison dernière.
Non, effectivement, alors ce qu'il faut noter aussi, c'est que les hommes n'étaient pas retournés à Lévis depuis 2019. Et à cette époque, Clément avait terminé justement deuxième de ce slalom. Alors pour lui, commencer la saison en Finlande, un peu seul au monde, au milieu des rennes et des aurores boréales, c'est clairement ce qui lui convient et ce qui lui réussit.
C'est un site que j'aime bien, c'est une piste que j'aime bien, c'est une atmosphère, une ambiance pour démarrer la saison, je trouve qu'il va bien. C'est un peu éloigné de tout, c'est un peu éloigné de l'effervescence d'un début de saison. Une première course, c'est plus stressant que les autres dans la saison, parce que c'est vraiment là où le début de saison joue, où on sait pas où on en est, où on sait pas où les autres en sont. Enfin, c'est forcément, il y a un petit peu plus de stress. Et la piste en elle-même, c'est une piste qui est assez facile, même s'il y a un bon mur en bas, mais ça reste assez facile. C'est un profil qu'on n'a pas souvent l'habitude d'avoir, avec un long plat en haut. C'est un endroit que j'aime bien et où je me sens plutôt bien.
Et Clément Noël, un champion olympique en titre de slalom, reste évidemment effectivement sur une saison sans victoire l'an dernier, mais quand même avec 4 podiums. Donc il ambitionne de meilleurs résultats, ça commence déjà aujourd'hui. Il s'élancera dans quelques instants d'Ossard numéro 3. Et des infos qu'on a eues, Clément est en forme. Il a très très bien skié ses derniers jours à l'entraînement. Donc on peut s'attendre à une belle manche, deux belles manches, on l'espère, de Clément Noël.
Eh bien parfait Léna, merci beaucoup. On suivra ça dans quelques minutes, c'est à partir de 10h, donc d'Ossard 3. Ça va arriver très rapidement pour la première manche de Clément Noël. Allez, troisième information dans le zapping des GG à vous donner. Ah, enfin du golf, quel bonheur. Antoine Rosner, tout près du PGA Tour la saison prochaine. On s'en fout pas. Philippe Saint-André.
On s'en fout.
Mario Bartoli.
Je m'en fous complètement.
Marc Nadio.
Complètement.
Je savais même pas que ça existait, donc je m'en fous.
Ok. Mon salut viendra certainement de Simon Dutin. Simon.
Non, Simon, s'il te plaît, fais pas ce plaisir. Fais pas ce plaisir.
Évidemment, on s'en fout pas.
Merci, notre Français.
Non.
Rapidement.
Simon,
rapidement, il a raison, notre Français. Faillot. Va-t-il rejoindre Mathieu Pavon et Victor Pérez la saison prochaine sur le circuit américain? Alors, Antoine Rosner est actuellement en finale de la Race to Dubai, le dernier grand rendez-vous de la saison du circuit européen. Il faut qu'il accroche le top 5. Et pour l'instant, il est deuxième. Antoine Rosner avec moins 12, en tête Rory McIlroy à moins 15. Donc il est deuxième, il est dans le top 5. Et s'il y arrive, il va pouvoir vivre son rêve américain et décrocher l'un des 10 billets pour accéder au prestigieux PGA Tour. Simon, rapidement.
On s'en fout pas parce que dans cette discipline qui semble être méprisée, et je le déplore par mes collègues des grandes gueules, c'est un exploit absolument monumental. Alors oui, peut-être que on s'est habitué puisque Mathieu Pavon y est depuis la saison dernière, ainsi que Victor Pérez, et que nos Français ont plutôt bien figuré la saison dernière. Mais on rappelle que c'est la jungle sur le Tour européen pour décrocher une carte, un sésame comme on dit dans le jargon, pour jouer sur ce tour qui est pour le golf équivalent de la NBA en basket, ou voilà l'endroit où il faut jouer si on veut côtoyer les meilleurs. Et ce serait un accomplissement absolument phénoménal si tenait. Il lui reste 12 trous à jouer, il faut que ça tienne.
Exactement. Allez, Antoine Rosner, on en parlera évidemment tout au long de cette émission, édition spéciale, mais pas du tout. Le Practice RMC demain avec un numéro spécial autour, donc on l'espère, de cette qualification pour le PGA Tour d'Antoine Rosner. Allez, c'est le moment de jouer les amis.
Vous allez en faire quoi? Vous allez les placer
dans la popoche.
Voilà, les sous-sous dans la popoche.
RMC vous offre 100 000 euros.
Eh oui, embrassez-vous, bordel de merde. C'est l'événement sur RMC. Vous allez peut-être pouvoir repartir avec 100 000 euros. C'est un gain inédit sur notre antenne. 100 000 euros net d'impôts, comme aime à le rappeler les facochères, les sangliers du Super Moscato Show. 100 000 euros net d'impôts. Il est 9h57. Vous avez jusqu'à 10h07, pardonnez-moi, pour jouer RMC au 732-16. RMC au 732-16. Bonne chance à tous. Ça n'arrivera pas toutes les semaines. Hein. 100 000 euros, J-4. Le tirage au sort, c'est jeudi.
75 centimes par SMS, 4 SMS maxi.
Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Le bras de fer des GG autour de l'équipe de France de foot. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.